France Bleu Sport, 18h, 19h, le lundi c'est foot aussi. L'actu, les polémiques, les résultats, les indiscrétions.
C'est parti, 18h10, au menu de ce lundi, c'est foot aussi, les deux défaites de Lille et Valenciennes qui commencent à peser, surtout pour Lille d'ailleurs. On va en parler évidemment ce soir, le déplacement ce soir de Lens à Châteauroux, l'avez entendu, à suivre sur France Bleu Nord. Et en deuxième partie d'émission, on va parler de la place des clubs professionnels de football dans la vie économique de la région. Avec Patrick Caner, sénateur socialiste du Nord et ancien ministre des Sports de la Ville et de la Jeunesse, bonsoir.
Bonsoir.
Pour l'interroger, enfin en tout cas pour échanger avec lui, il y a autour de la table évidemment Christian Palca, bonsoir Christian.
Bonsoir.
Benoît de Covovillé, Médiacité France Bleu Nord. Bonsoir Benoît.
Bonsoir.
Et puis Cédric Van Goten, agent de joueur. Bienvenue Cédric.
Bonsoir.
Qui a maintenant ses habitudes dans le club.
Pour alors, moi, les sifflets,
non, pas du tout. C'était pour illustrer les cartons. Non, pas du tout. C'est vrai que ça pourrait prêter à confusion. Ça tombe mal. Non, messieurs, vous l'avez entendu. Effectivement, ça peut être les cartons rouges, on l'a entendu, ou le bleu. C'est plutôt positif. Les cartons commencent avec vous, Christian. Votre carton, c'est.
Ça va être le même qu'il y a quelques semaines et j'ai bien peur que ça dure comme ça pendant toute la saison. C'est encore une fois la communication du LOSC pour les interviews d'après match. C'est une catastrophe. Hier le match, pourtant le match Lille avait fait une belle prestation. Ils ont perdu, je suis d'accord, mais une belle prestation. Personne s'est arrêté sauf Pépé, à votre micro à vous, Benoît.
Oui, Nicolas Pépé.
Mais voilà quoi. Et vous en parlez aux responsables. Tout le monde s'en fout, donc c'est carton rouge.
C'est peut-être qu'il n'y a rien à dire.
Attendez, il y a tout. Non, c'est qui. Voilà, d'abord, ils se préoccupent pas de nous. Ils ont, c'est leur droit. Mais nous, c'est plus difficile. Donc, comme on peut de temps en temps tacler, on tacle.
Et ça, c'est pas la première fois que vous nous donnez ce carton rouge là.
C'est récurrent. C'est comme ça. Il y a quatre joueurs qui parlent français. Et hier Pépé s'est arrêté, mais les autres ne s'arrêtent pas, et ils le savent. En plus, ils font bien, Benzia, il le fait un peu, il passe devant nous avec un petit air narco, quoi, l'air de dire, allez-vous faire voir.
Donc. Vous voulez dire qui?
Bien sûr.
Ah bon, d'accord.
Ah oui.
Bon. Donc, Benoît de Covovillé, votre carton à vous.
Oui, moi j'ai un carton rouge, à l'attention de Rudy Garcia. J'aime pas la démagogie. Je reconnais le grand entraîneur qu'il est, mais je n'aime pas la démagogie. Et sa petite sortie hier, ne serait-ce que par respect pour son confrère Marcelo Bielsa, il aurait pu nous dispenser de sa petite leçon sur les anciens du LOSC, Rio Mavuba, Marco Bacha, chacun sa façon de voir, Christian. C'est tellement facile de tirer sur une bête blessée. Quand Rudy Garcia prenait des volets contre Monaco en début de saison, on l'entendait beaucoup moins. Et puis surtout, il nous a parlé de perte de valeur du club. Mais s'il veut, on peut aussi évoquer la perte des valeurs de Claude Puel à l'époque où est arrivé Rudy Garcia au LOSC. Parce que rappelez-vous, on était passé d'un club formateur à un Claude Puel bâtisseur à une période beaucoup plus paillette, strassée. Paillettes sous l'ère Rudy Garcia.
Qui a un titre de champion de France.
Oui, mais dans la vie, il y a des bâtisseurs et il y a des jouisseurs. Et je pense que Rudy Garcia a cette finesse de communication, cette finesse de sentir les bons coups, de trouver les bons clubs, et bravo, félicitations à lui. Mmh. Je trouve que le leçon de morale sur un LOSC qu'il a quitté il y a des années.
Vous voulez dire qu'il crache dans la soupe.
Oui. Voilà, je pense qu'il aurait. Il se serait contenté de commenter l'Olympique de Marseille. Ça suffisait amplement à notre bonheur hier.
Patrick Caner, avez-vous un carton bleu ou rouge ?
Carton rouge, mais pour un événement extérieur à notre pays, j'ai le droit.
Oui,
allez-y.
Bien sûr.
Christian est d'accord. Christian est OK.
22 octobre dernier, match de la Lazio Roma contre Cagliari. Cagliari et les supporters de la Lazio ont commis un acte extraordinaire et méchant. Pour ne pas dire plus, raciste, puisque, je ne sais pas si vous le savez, mais le stade de Rome est partagé, stade olympique, entre l'AS Roma et la Lazio. Et donc, les supporters...
Comme Milan,
exactement. Eh bien, ces supporters ultra de la Lazio n'ont rien trouvé de mieux que de coller un autocollant donc sur les sièges habituels des ultras de l'AS Roma, avec une photo d'Anne Frank, habillé avec un maillot de la AS Roma.
J'ai entendu parler.
Non, on a parlé.
Moralité, donc un acte raciste, ouais, antisémite, odieux. Et malgré les explications des dirigeants de la Lazio, on est là devant un acte qui est vraiment contraire à tout ce que je défends et que j'ai défendu comme ministre des Sports. Sur la valeur du sport, la tolérance, le vivre ensemble, finalement, au travers du sport. Donc, c'est vrai qu'on s'éloigne un petit peu de notre actualité nordiste, au sens large du terme, mais je voulais mettre un carton rouge à ses supporters, parce que quelque part, c'est contraire à tout ce que nous défendons
ça,
les uns les autres.
Vous avez, et ça, c'est un problème. Ça pourrait faire une émission complète. C'est le problème des supporters. Il y a 90%, ils sont très bien, ils viennent avec des enfants et tout, et puis il y a une minorité qui sont quand même catastrophiques.
La fameuse loi sur le supporterisme qu'on a avancé avec Thierry Braillard à l'époque, hein, et qu'il faudra remettre sur le chantier, c'est clair.
Oui, moi ce que vous dites est très intéressant.
On est qu'au carton là.
Parce que c'est dans la bouche d'un responsable politique. Mais j'ai envie de dire, la Lazio, les supporters de la Lazio, ça fait 30 ans que ça dure. Le capitaine Di Canio, il y a 20 ans, faisait le salut romain. Nazi. Nazi
fasciste,
à ses supporters.
Fasciste.
Les supporters de la Lazio avaient un jour sorti une banderole à la mémoire d'Arkane. Je sais pas si vous vous souvenez d'Arkane, l'exécuteur des basses œuvres de Milosevic à l'époque de la terrible Serbie, quelques jours après son assassinat dans un hôtel de Belgrade. Et j'ai envie de dire, que font les responsables politiques italiens depuis 20 ans avec les ultras de la Lazio? Et par extension, le problème des ultras aussi en France, comment est-il pris en charge par les responsables politiques depuis 15 ans?
C'était un vrai sujet. Je me souviens de débats avec l'ancien président de la Ligue. On est pris en tenaille, entre d'un côté le fait d'avoir des supporters qui animent les stades, etc., et puis des gens qui utilisent finalement, non pas notre faiblesse, mais notre souhait de les voir quand même animer les stades, avec des méthodes qui sont absolument critiquables. Et donc on a quand même heureusement pas ce type de phénomène, en tout cas on l'a plus. On se souvient des banderoles du PSG, enfin des ultras du PSG sur les nordistes. Hein. Chacun a ça en souvenir.
C'est une autre forme de racisme aussi.
Exactement.
Cédric Van Goten, votre carton.
Un carton bleu. La France a été champion du monde de foot fauteuil au mois de juillet, en battant les États-Unis en finale. C'est passé complètement inaperçu, malheureusement. Et j'ai découvert cette semaine que dans l'équipe de France, il y avait deux Villeneuvois, et que le club de Villeneuve-d'Ascq, dans la métropole lilloise, était, au cours des dernières années, multiple champion de France, vainqueur de la Coupe de France et de la Champions League. Donc un carton bleu parce qu'on a enfin des sportifs méritants en termes de football dans la région.
Et c'est malheureux que ça passe inaperçu.
Voilà, il fallait bien du bleu quand même. Hein.
Et comme je sais que Monsieur le ministre avait fait beaucoup pour le handisport et le paralympique, je m'étais dit que c'était aussi la bonne soirée pour le dire.
Très bien, 18h18.
France Bleu Sport. Le lundi, c'est foot aussi. L'actu, les polémiques, les résultats, les indiscrétions.
Allez, c'est la bonne heure pour attaquer avec malheureusement la défaite de Lille face à Marseille, 0-1. Un Lille qui a bien joué, mais qui une fois de plus n'a pas gagné, évidemment. Alors combien de temps est-ce que ça peut encore durer, messieurs? Christian, on a l'impression peut-être que c'est Marcelo Bielsa comme un Rubik's Cube entre les mains et avec ses joueurs, mais qui les place pas peut-être aux bons endroits et qui n'arrive pas à aligner les bonnes couleurs.
Oui, Marcelo Bielsa a déjà un traitement particulier, unique en France. Il n'y a aucun club qui protège son entraîneur comme ça. C'est impressionnant, quoi. Vous êtes d'accord avec moi?
Certes. En même temps, le projet du LOSC, j'avais jamais vu ça nulle part dans aucun club de l'Hexagone depuis que le foot est foot. Hein. Recruter que des gamins pour bâtir un projet à moyen terme, en espérant quand même avoir des résultats rapidement, tout ça est très compliqué. Avec un nouveau président, mais c'est vrai qu'il jouit de la part du public lillois d'un...
Est-ce que vous savez quelle était la moyenne d'âge des joueurs hier en lice et les remplaçants?
Non.
21 ans et 9 mois.
21 ans et 9 mois.
Et Marseille, j'ai fait le calcul, 27 ans et 8 mois. Ouais. Donc ça montre tout simplement que... D'ailleurs, on le voyait physiquement, les Marseillais étaient plus costauds. Hein, plus costauds parce que il y a aussi de la maturité physique et physiologique même, en l'occurrence.
Monsieur le Président, moi je vais vous appeler Monsieur le Président parce que je n'ai pas oublié que vous avez... D'abord, j'aime bien le mot président, déjà. Et je n'ai pas oublié que vous avez été président du Conseil Général.
Ouais. Avec une belle politique sportive.
Donc, voilà. Alors, Monsieur le Président, je suis d'accord avec vous, mais il est là. C'est le projet du LOSC, c'est pas ça. C'est pas de former des jeunes pour plus tard. En plus, des jeunes qui vont sans doute partir. Une fois qu'ils seront formés, ils vont être vendus. Donc, il faut du résultat quand même pour remplir, pour remplir le stade Pierre Mauroy.
C'est pas les canards qu'on engraisse pour faire du foie gras. Hein. Non mais il faut des résultats. Non mais il faut des résultats. On peut espérer quand même que ce pari sur la jeunesse se traduise par un résultat qui sera sûrement moyen cette saison. Moi, j'espère qu'il n'y aura pas de descente, hein, par définition. Mais même si aujourd'hui ils sont 19e et ils sont à quelques points déjà de l'avant-dernier.
Hein, on est d'accord.
C'est le match de Metz contre Metz, est majeur pour relancer la machine. Donc face à ça, on a des très très jeunes. Il faut qu'ils restent 3 ou 4 ans dans l'équipe pour pouvoir donner ce qu'ils ont reçu. Mais hier, j'ai vu du potentiel. Hein.
Oui.
Honnêtement, ils ont mouillé la chemise.
Oui.
Comme je pense, ils n'avaient pas mouillé la chemise depuis bien longtemps. Il n'y a pas eu de finition. C'est vrai. Et, il fallait un buteur, il fallait un finisseur devant Malanda, qui était quand même remarquable hier. Il a fait des conneries, excusez-moi l'expression, au début du match, beaucoup de phrases de fébrilité, mais puis après il a été impeccable. Mais s'il y avait eu un finisseur au LOSC, le ballon rentrait dans les filets.
Benoît.
Oui, moi c'est ce qui m'ennuie le plus dans ce projet lillois, c'est que j'ai vraiment le sentiment qu'à ce poste très stratégique d'avant-centre, le jeune, il n'est pas là. Malheureusement, non. Bielsa est obligé de titulariser Nicolas Pépé, qui apprend son métier d'avant-centre. Il nous l'a dit en début de saison. Lui, il est plutôt pour jouer un petit peu derrière. D'ailleurs, il a été beaucoup plus efficace quand Ezequiel Ponce est rentré et qu'il a joué derrière. Mais je pense que Bielsa est gêné aux entournures. Il n'a pas ce numéro, ce buteur, alors qu'il avait avec Depréville. On ne va pas revenir là-dessus, mais tous les postes sont fournis à Lille, sauf
Et Mendes a fait un très bon match.
Mendes a fait un bon match.
Cédric.
Non, mais ce qui met dans la difficulté le club aussi, c'est la communication qui a lieu avant saison. On a peut-être parlé trop vite en parlant de top 5. On aurait peut-être dû être un peu plus sage, puisque de toute façon, si c'était de la communication, rien que la venue de Marcelo Bielsa suffisait à donner un peu de lustre au projet. Voilà, donc on l'a dit, on l'a souvent dit, on est sur un modèle à la Monaco, ou une équipe jeune, où on va se séparer de un ou deux joueurs par an, mais qui permettrait aussi de renforcer et de monter en puissance au cours des années qui viennent. Hier, je vais manger mon chapeau. Pour la première fois depuis le début de saison, ils ont bien joué, mérité autre chose que la défaite.
Bon, on continue à parler de Lille, bien évidemment, juste après la pause.
France Bleu Sport, le lundi, c'est foot aussi, jusqu'à 19h.
Pause route, bien évidemment, 18h22, on a un petit peu de retard d'ailleurs sur la route, ça reste très chargé, n'oubliez pas d'éviter, si vous le pouvez, la traversée de Villeneuve-d'Ascq. Hein. Toute sa longueur est saturée jusqu'à la jonction avec la 27 et le secteur de Saint-Germain-Lantois avec les répercussions, donc ça reste vraiment très très difficile ce soir, et ça fait un petit moment que ça dure d'ailleurs. Également la voie rapide urbaine et l'arrivée sur l'île, là où c'est très difficile, c'est là que c'est quand même très chargé ce soir, et quand on arrive sur le tronc commun, bah écoutez, à partir de la courbe de Ronchamp en direction ensuite de la 1 et de Paris, ça reste chargé donc jusqu'à peu près le secteur de l'Équin, et dans l'autre sens c'est avant la courbe de l'Os en direction de Dunkerque où il commence à y avoir un ralentissement, et un ralentissement donc qui perdure comme ça à peu près jusqu'à Antier-en-Web, donc ça reste ça roule en accordéon assez chargé dans le sens Paris-Lille à partir de Vendeville, là aussi on a un petit ralentissement jusqu'à peu près la courbe de l'Équin, ensuite ça va beaucoup mieux. Je vois que ça se charge vraiment le secteur d'Anglo, c'est vraiment assez dense donc sur la 25 en direction de Dunkerque. Hein. Attention. Sur la rocade nord-ouest, le début de cette rocade nord-ouest jusqu'à Vambrochier aussi est assez chargé encore. Et puis sur la 22, Marc-en-Barœul-Ouescal, là on a un gros coup de frein d'ailleurs au niveau de la rocade nord-ouest. Ensuite, ça reste dense jusqu'à Mouveau en direction de Gand, et dans le sens Gand-Lille, c'est à partir, je le disais tout à l'heure, de Neuville-en-Ferrin, et ça reste encore chargé à partir de Neuville-en-Ferrin effectivement jusqu'à peu près l'arrivée sur Bondu. Donc prudence sur ce secteur-là. On va dire le gros point noir vraiment ce soir à éviter si vous le pouvez, c'est cette nationale 227, la traversée de Villeneuve-d'Ascq, mais également la voie rapide urbaine.
On fait la route ensemble avec Move Équipement, fabricant dans notre région de galeries et pupitres porte-verre pour véhicules utilitaires. Produits et innovations sur moveéquipement.com. France Bleu Sport. Le lundi, c'est foot aussi. L'actu, les polémiques, les résultats, les indiscrétions.
Allez, on revient à Lille, messieurs. Revenons à Lille et à son prochain match face à la lanterne rouge du championnat, Christian.
Oui, alors justement, monsieur le président, vous en parliez, ce match à Metz va être hyper important. Si Lille n'arrivait pas à battre le dernier, 3 points derrière, ce serait... attendez, si Lille ne peut pas battre Marseille, on dit ils battent pas Marseille, c'est normal. Marseille, bon, ils sont quatrième. Ils battent pas Monaco, c'est normal. C'est les deux meilleures équipes françaises. Ils vont pas battre le PSG. Mais s'ils battent pas non plus le dernier, ils vont battre qui?
Bah, ils ont déjà pas battu 3, ils ont déjà pas battu Strasbourg. Bah voilà, c'est ça qui est inquiétant.
Je pense quand même que votre raisonnement n'est pas bon. Déjà, ils ont un match en retard contre Amiens, ne l'oubliez pas.
Un match en retard, c'est pas un match gagné. Hein,
on est d'accord, mais c'est un match en retard. Ouais. Il y a 3 points potentiels en
jeu. Amiens qui n'est plus relégable.
Amiens qui n'est plus relégable. Mais Christian, encore une fois, Marcello Bielsa est la pierre angulaire d'un projet. Je dis pas que le président va attendre pendant 10 ans, mais je pense à minima que jusqu'au mois de janvier, rien ne se passera. Et
ben, je vais vous dire pourquoi. Vous savez pourquoi? Il est coincé avec le projet, tel qu'il est fait, avec autant de joueurs. Oui. On va dire novice. Personne va s'engager à la place de Bielsa. Finir le travail de Bielsa qui n'arrive pas à finir.
Et puis ça coûterait combien de se séparer de Bielsa?
Ils ont de l'argent, lui, c'est pas grave.
Tout est négociable. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut laisser un peu de temps. Enfin, encore une fois, ce que j'ai vu hier soir est plein de promesses. Bon. Après.
On est au tiers du championnat, hein.
On est déjà au tiers du championnat. S'ils gagnent contre Metz, ils resteront quand même avant-dernier. Parce qu'en nombre de points, ils resteront qu'il ira en dernier, mais il y aura une victoire. On attend cette victoire. Sauf de ma part, il y a eu combien de victoires cette saison?
Une.
La première, j'y étais pas, c'était pendant le mois d'août.
Un beau match, on avait vu un beau match.
Et tout le monde avait dit, mais ça y est, on est parti pour une saison magnifique. Bon, on a vite déchanté, donc c'est tout. Je crois qu'il faut vraiment garder notre sang-froid, il faut que les particules redescendent, et on en parlait tout à l'heure avec Cédric Van Goten, l'équipe qui commence à dire Bielsa, pas Bielsa, va pas partir. Je pense qu'il faut pas déstabiliser une équipe aussi jeune, parce que là, on risque vraiment la catastrophe.
Alors surtout, Christian, juste un mot, que les joueurs à qui on pose et repose la question de match en match nous disent, on comprend parfaitement le discours du coach, à un moment donné on se demandait s'ils comprenaient les consignes et le plan de jeu, mais ils disent, on comprend bien ce que le coach nous demande, on le met en application, on progresse, on travaille, bon voilà, c'est une équipe effectivement qui, à mon sens, est sur une phase ascendante.
Maintenant je vous rassure, Marcelo Bielsa, rien ne va le déstabiliser. C'est un menhir, ce gars. Il est là, il ne regarde pas, il regarde ses pieds, et il répond aux questions, longuement, des fois, et visiblement, rien. Je pense que, attaqué comme il est attaqué, il doit souffrir, mais il le montre pas. Il a avoué qu'il souffrait. Hein.
Oui, parce qu'on le voyait même sur les images. Ouais. Là où j'étais hier en tribune VIP, hein, comme on dit, il y avait les images en direct et plusieurs fois il y avait la caméra sur lui. On voyait bien quand même que cet homme n'est pas insensible à une équipe qui ne marque pas, quoi.
Et en même temps, il est là aussi pour que ça marque et pour que voilà, hein, et pas pour finir en bas du tableau. Donc c'est avec l'argent et les sommes qui sont en jeu aussi, c'est un petit peu.
Mais c'est vrai, mais la matière qu'il a en main est encore une fois extrêmement jeune. Enfin, je veux dire quand vous voyez dans les remplaçants, il y avait deux.
Mais Marseille aussi était tout aussi jeune, non ?
Non.
Monsieur le ministre, moi ça c'est quelque chose que j'ai quand même du mal à entendre comme argument, puisque. Je suis d'accord, il a un effectif extrêmement jeune. Mais il l'a voulu. Je veux dire, il est pas victime de la nature de l'effectif.
J'ai pas dit
c'est
ça.
Lui qui l'a... Il l'a voulu,
mais...
Il l'a modelé comme ça.
Mais il lui faut un peu de temps, peut-être, pour transformer l'essai. En tout cas, c'est vrai qu'il n'y a pas encore d'essai vraiment assumé. Je vous le concède.
Vous savez, moi, j'ai une pensée pour les... J'ai une pensée pour tous les entraîneurs français. Notamment, par exemple, ceux qui n'ont pas de travail. Et puis ceux qui ont des travails, qui se battent et qui ont du mal à faire marcher leur équipe, ils se disent, Bielsa arrive, on lui tient le tapis rouge. Je prends Antonetti qu'on a vu hier, qui était avec Canal. Ils se disent, Bielsa arrive, on lui tient le tapis rouge. Nous, à la moindre incartade, on se fait taper dessus, on est viré. Et lui, il fait ce qu'il veut. Les gars, ils doivent être un peu agacés quand même. Moi, je me mets à leur place.
Christian, ils ont qu'à se créer une notoriété, ils ont qu'à se créer une réputation. Alors, ça, c'est autre chose. Voilà. Mais il y a quand même quelque chose qui handicape fortement Marcelo Bielsa. Et ça, je pense qu'il n'avait pas vu venir. C'est l'incapacité à progresser d'El Ghazi, l'incapacité à progresser de Balouli. Il y a quand même 3-4 cas dans l'équipe.
Balouli.
Balouli. Il y a quand même 3-4 cas dans l'équipe qui sont très inquiétants et pas des gars qui sont arrivés au mois d'août. Les gars qui sont arrivés au mercato d'hiver l'année dernière. Mmh. El Ghazi, il avait montré des choses intéressantes en fin de saison dernière. Excusez-moi, aujourd'hui, ce garçon, il apporte rien à l'équipe.
C'est pas extraordinaire hier soir. Hein.
Et ça, c'est ennuyeux. Ça, c'est très ennuyeux. Alors, là, alors que les Thiago Maia, Thiago Mendes, Edgar Rier et compagnie, à mon sens, sont vraiment dans le projet Bielsa, ils progressent.
Et là,
les autres plafonnent.
Et là, on revient. Et d'ailleurs, le président Gérard Lopez est intervenu là-dessus. On revient à quelque chose qui est quand même fondamental en ce moment dans cette équipe. On n'en parle pas beaucoup. C'est la mésentente totale entre Marcelo Bielsa et Campos.
C'est vrai.
Ah oui. Et El Ghazi, Balouli, je crois que c'est Campos. La première vague, c'est Campos.
Oui, enfin, en janvier 2017, Marcelo Bielsa était déjà dans l'ombre. C'est déjà lui qui supervisait, donnait son accord. Je suis pas sûr qu'il soit pas du tout intervenu sur ces transferts-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on sent qu'il y a une pression au LOSC et que le président est obligé de faire des arbitrages. Et en écartant quand même considérablement Campos et en donnant les clés complètes du camion à Bielsa, il a pris un
décès. Est-ce qu'il a le choix? Quand on choisit un tel entraîneur, on a intérêt à aller jusqu'au bout potentiellement d'expérience. Après, si à l'intersaison, Lille est 19e et 20e encore, on va se poser des questions.
Le président aurait dit à Campos et à Bielsa, vous débrouillez comme vous voulez, mais il faut que vous travaillez ensemble. Voilà, c'est deux personnes qui connaissent bien le football, c'est dommage que leur divergence écarte-t-elle le projet plutôt que de le rassembler.
Enfin, ils travaillent tellement ensemble que Bielsa s'est séparé, 9 adjoints quand même à Marcelo Bielsa, il s'est séparé de son adjoint vidéo il y a quelques semaines, qui était un homme à Campos, débauché de l'AS Monaco, il était à Monaco depuis très longtemps, débauché de l'AS Monaco par Campos et écarté par Bielsa. Ça, c'est quand même pas de nature à nous laisser penser que tout se passe au mieux dans la direction technique du club.
18h31, messieurs, on revient juste après un petit point route. On va revenir bien sûr.
En ce moment, on parle beaucoup de chiffres. Alors en voilà quelques-uns de plus. Un Français sur deux vit ou a déjà vécu dans un des 4,8 millions de logements HLM. 2,2 millions de locataires bénéficient d'une APL. Chaque année, 50% des logements attribués le sont à des ménages en dessous du seuil de pauvreté. 18 milliards d'investissements font travailler des centaines de milliers de salariés, notamment dans le bâtiment. Mais ce qui nous anime, ce ne sont pas les chiffres. C'est un vrai projet économique et social. C'est la solidarité nationale. Retrouvez ce projet sur union-habitat.org.
Un message de l'Union sociale pour l'habitat.
Qu'est-ce qui est vert et qui fait des trous le week-end? Votre beau-frère qui est au golf? Ou la perceuse de votre mari qui profite de verres électriques week-end? La nouvelle offre verte d'EDF moins chère le week-end?
Appelez le 3004 et optez pour verre électrique week-end, la nouvelle offre d'EDF moins chère le week-end. Service et appel gratuit, offre à prix de marché pour les logements équipés d'un compteur communicant. EDF s'engage à ce qu'une quantité d'électricité d'origine renouvelable équivalente à votre consommation soit injectée sur le réseau électrique. Plus d'informations sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Lundi, c'est foot aussi, ça continue. Hein. Dans un instant, on y revient, on vient de parler de Lille. Dans quelques instants, on va parler de Valenciennes et de Lens. Et on finira sur la place des clubs professionnels de football dans la vie économique de la région. Pour l'instant, on va faire un petit point sur la route. 18h33 avec vous, Denis, à la cellule de vigilance routière à la préfecture. Denis, comment ça roule? C'est encore compliqué hein, ce soir.
Oui, effectivement, vous l'annoncez, hein, on a toujours deux axes qui restent assez chargés. La traversée Villeneuve-d'Ascq par la Nationale 227 depuis la cour de Babylone jusqu'à la jonction du tronc commun de l'autoroute A27, A22. Néanmoins, on commence tout doucement à voir des signes de remise en circulation, reprise de la circulation routière. Donc ça commence à s'améliorer progressivement. Et également, de ce fait, la Nationale 356, voie rapide urbaine depuis le secteur de la Pilaterie jusqu'au centre de Lille, donc dans le centre Ouascal vers Lille, ça reste également chargé. L'autoroute A25 dans le sens Dunkerque vers Lille, la fin de l'autoroute A25 juste avant la jonction de l'autoroute A1, les 5 voies de Ronchin, une petite densité de circulation. Et également un peu plus loin, début de l'autoroute A1 en direction de Paris à hauteur de l'Équin. Dans le sens inverse, en direction de Dunkerque, on a toujours une densité au niveau de l'Os, puis un peu plus loin au niveau d'Anglo. Donc prudence en abordant ces deux zones. Nationale 41, avant le rond-point de Fournes-en-Ouest, vous êtes toujours gêné sur environ 500 mètres, mais ça s'améliore progressivement. Et ensuite, un peu plus au nord, l'autoroute A22 reste chargée dans le sens Belgique vers France, de Roncq jusqu'à hauteur de Mouveau. Donc prudence sur le secteur.
Ça n'a pas bougé depuis tout à l'heure sur le secteur, là.
Non, effectivement, ça bouge pas. Ça, on va dire, allez, des petites ondulations, mais pas grand-chose, effectivement, pas une nette amélioration.
Simplement la densité.
les densités, voilà, pas de gros incidents. Et on va terminer, on va aller sur l'autoroute A16, on va signaler zone de travaux entre Saint-Folquin et Cravic. Hein. Donc prudence en abordant ce chantier, en traversant l'ensemble de ce chantier, ralentissez et respectez bien entendu les distances de sécurité.
Absolument, toujours les bons conseils, vous avez raison. Merci Denis, à demain.
Merci, à demain.
Bonne soirée à vous.
France Bleu Nord.
Bon, un petit mot de météo, parce que c'est important, on voit bien qu'on rentre, enfin on est en automne, mais on y rentre, on commence vraiment à rentrer dans l'automne, même si on a une belle luminosité, cette nuit ça reste dégagé, avec des températures de 6 à 9 degrés en Flandre, sur le reste du département de 2 à 4 degrés, donc là on commence à avoir des températures de saison, et puis alors demain mardi, demain c'est Halloween aussi, pour ceux qui ont envie d'aller sortir chercher des bonbons et fêter ça, avec un beau temps, après dissipation des brumes matinales et du brouillard, une journée bien ensoleillée, malgré des petits passages nuageux, qui vont se promener ici ou là, mais sans grande importance, les températures de 11 à 14 degrés. Je peux vous dire que mercredi, ça restera aussi très dégagé, anticyclonique, avec encore beaucoup de soleil et du 13 à 14 degrés pour les températures maximales.
La météo avec Murprotec, Nord-Pas-de-Calais et Picardie, solution définitive contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur murprotec.fr.
France Bleu Sport, 18h-19h. Le lundi, c'est foot aussi. L'actu, les polémiques, les résultats, les indiscrétions.
Allez, deuxième partie de l'indice foot aussi, l'émission sur France Bleu Nord, bien sûr, vous le savez, on revisite l'actualité footballistique de Lille, sans vient de le faire, mais aussi de Valenciennes et Lens, on va en parler tout de suite. Dans les studios de France Bleu ce soir, monsieur Patrick Caner, sénateur socialiste du Nord, ancien ministre des Sports, de la Ville et de la Jeunesse, Benoît de Covovillé, média cité France Bleu Nord, et Cédric Van Goten, agent de joueur. Alors Valenciennes qui change d'entraîneur, alors que tout va bien, depuis le nouvel entraîneur, le VAFC qui perd, Christian Palca.
Ça n'a rien à voir, hein. Mais c'est un fait qu'avant tout allait bien, on a changé d'entraîneur et pour l'instant rien ne va plus, même si entre Farouk Hadžibegić et Régine Allaré, il y a eu l'intérim de deux matchs de Nicolas Rabuel qui lui a remporté deux victoires.
Moralité de l'histoire, prenez un entraîneur qui n'a pas de diplôme.
Prenez un intérim. Non mais là je veux dire... Sur le match, j'y étais, moi, sur le match de Nîmes. Première mi-temps, superbe. Les deux équipes ont fait un super match. C'était très, très bien. 45 minutes agréables à voir, avec du football. Et puis, en deuxième mi-temps, Valenciennes qui coince, comment je pourrais dire,
qui patine.
Ah ouais, plus que ça. Et Nîmes qui met la pression. Nîmes était au-dessus de Valenciennes, mais vraiment.
Cédric ?
Ouais, non, je suis assez d'accord avec Christian. Alors, j'étais fervent défenseur de Farouk, et c'est pas pour ça que je vais aujourd'hui enterrer Régine Allaré, parce que quand même, les trois matchs qu'il y a eu, c'est Paris FC qui fait un super début de saison et qui doit être quatrième. Il me semble.
Cinquième.
J'ai mes fiches.
Un 2-2 à Lille, qui est quand même pas mal comme résultat, c'est une défaite au tir au but, mais oui. c'est quand même un 2-2 à Lille. Hein, et puis Nîmes qui est quand même bien au-dessus, moi je vous le dis, je mets une pièce, Nîmes sera dans les 5 premiers du championnat, c'est une belle mécanique.
Ils sont 3e ou 4e ?
3e.
Ils sont 3e. Alors là on parlait d'équipe jeune, c'est un peu le LOSC de la 2e division, puisque le plus vieux, il y en a qu'un, il a 25 ans. Dans cette équipe-là, vous rajoutez un ou deux joueurs plus expérimentés, un peu à la Roudet qui a encore fait un super match samedi, mais vous rajoutez un ou deux gars comme ça et Nîmes pourrait facilement jouer la montée cette saison, il n'y a rien à dire. Puis alors, ils ont fait non seulement un bon match, mais il y avait un pénalty pour eux en début de match. Ils ont deux montants à peu près à l'heure de jeu.
Un poteau, en 5 minutes, un poteau, une transversale et deux arrêts décisifs de Damien Perkis. C'était extraordinaire. Quoi. Le pressing des Nîmois était quand même très très fort.
Valenciennes est quand même 13e. Bon, voilà,
oui, c'est pas mal, c'est une place
extraordinaire, mais non. ils sont dans le milieu de tableau, potentiellement.
Il faudrait pas que... Bon, c'est vendredi soir à 20h, ils reçoivent Brest. Faudrait pas qu'ils perdent aussi face à Brest, parce que là, ça commencera à faire beaucoup. 4 défaites consécutives, on n'a pas vu ça à Valenciennes depuis le début de saison, parce que Valenciennes, on le rappelle, fait un beau début de saison.
Oui, moi ce qui me gêne un petit peu sur le profil de Réginald Doré, alors je ne le connais pas bien ce garçon, donc je ne vais pas porter un jugement de valeur, mais il est quand même relativement inexpérimenté à la tête d'une équipe.
Il a été adjoint, il a été beaucoup adjoint.
Mais diriger une équipe complète, un projet sportif, et tout seul et être adjoint, c'est deux choses différentes. Ça veut dire qu'aujourd'hui à Valenciennes, l'entraîneur n'est pas très expérimenté, le président n'est pas très expérimenté comme président.
Ah, pas du tout.
Ça commence à faire beaucoup de pas expérimenter.
Vous n'avez pas rappelé Jean-Luc Borloo quand même, non?
Bah, j'en sais rien, mais je pense qu'il a toujours un œil sur le VFC. Je me suis même laissé dire récemment que Francis de Courrières était toujours un peu dans les couloirs et que la gestion Paris-10-Dieck agaçait un petit peu l'ancien président du VFC. Bon, voilà, c'est pas non plus donner trop d'importance à ça, mais ça mériterait qu'on creuse un peu.
Alors, sur la gestion, je vais faire un peu de pédagogie, parce qu'il faut aussi qu'on donne des suites des fois ce qu'on annonce dans l'émission.
Merci pour le pédagogue.
Il y a un mois, j'avais dit qu'il y avait un jugement qui était en attente sur trois administratifs du club de Valenciennes. Oui. On l'a vu dans la presse la semaine dernière, le jugement est tombé, jugement d'appel.
Appelez-le quand même, alors, pour les auditeurs qui n'étaient pas là il y a trois semaines.
Alors, il y a trois cadres administratifs du club qui avaient été licenciés... pour des mauvaises raisons, puisque le club vient d'être condamné et en appel par les prud'hommes. Voilà, Monsieur Pelluot, Monsieur Legrand et Monsieur Paulet. Et pour eux trois réunis, le club doit verser 320 000 euros.
Aïe.
Parce que il y a encore d'autres affaires là qui sont en instance. Hein.
L'affaire Pento, elle est pas réglée encore.
Pento, Casoni, voilà. Donc quand on disait que le président dilapidait un peu l'apport qu'avait fait Monsieur Partouche, on a encore un exemple.
Ouais, voilà. Mais bon, vous allez me dire, c'est pas ça qui.
Oui, mais Christian, dans un club de foot, et on l'a connu à Lens depuis 10 ans, okay. Quand dans les bureaux ça se passe mal, quand il y a des rivalités, des guerres internes, des égos, enfin tout ce que vous voulez, ça se ressent sur le terrain. Ça se ressent obligatoirement sur le terrain.
On va parler de ça dans la dernière partie de l'émission avec Monsieur le Sénateur sur les clubs. Les
président, clubs. Ministre, sénateur.
Ouais, les gens vont plus savoir.
Ouais, mais je vais prendre pour un afro-cumulard. Hein. Mais j'ai été cumulard dans le temps, pas dans l'espace.
Est-ce que c'est vrai que quand on dit ministre, on dit toujours Monsieur le Ministre même?
Oui, c'est un protocole. Français, républicain, c'est quand on a été un jour ministre, on se fait toujours appeler.
Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'il respecte le protocole.
Mais je ne garde que le titre, hein, j'ai plus aucun avantage.
Il n'y a pas la fonction. Précise pour les auditeurs.
Vous avez toujours un petit carnet d'adresse quand même, monsieur Canet.
Ça peut être utile.
Bon. Je suis très protocolaire même avec vous, vous savez, Christian.
Alors on revient à Valenciennes. Il faut pas qu'ils perdent samedi face à Brest. Et Brest, c'est quand même un concurrent pour la montée, ça va pas être.
Concurrent à qui?
C'est un prétendant.
Un prétendant, parce que pas, vous dites, si vous dites un concurrent, non, un c'est que Valenciennes a la prétention de monter. Là, vous m'inquiétez, Christian.
Prétendant à la montée, sérieux.
Oui.
Au même titre que Lens, enfin Lens. Anciennement Lens.
Christian, ouais. Avec la réforme du championnat de Ligue 2 et ce système de barrage, qui est bien évidemment fait pour que le maximum d'équipes soient concernées le plus longtemps possible
pour animer la Ligue 2.
Le but, c'est d'animer la Ligue 2. Parlons plus de prétendants à la montée. Je crois que 15 équipes sur 20 peuvent, quand on sait à quel point c'est serré. Voilà. Parlons plutôt des quasi favoris. Ouais, les quasi favoris, on les connaît. C'est le Stade de Reims et Lorient. Après, derrière, il y a toute une. Non. Il y a toute une meute.
Ajaccio est deuxième, là.
Hein. Oui, Ajaccio est deuxième, mais un championnat, faut tenir sur la longueur.
Brest, c'est pas un concurrent à la montée, c'est une belle mécanique. Brest est quand même une belle mécanique. Voilà, c'est une belle équipe qui a eu des tout sautements au début du championnat et qui s'est bien rattrapé et qui depuis déroule quasi toutes les semaines.
Excusez-moi de me répéter, mais les deux équipes qui avaient échoué à la montée l'année dernière, le Racing Club de Lens et le Stade Brestois, ont eu un début de saison catastrophique. Là où à Lens, on a dégagé Casanova pour entrer dans une ère Sicora. Pour faire plaisir au public. À Brest, on est resté fidèle à Furlan et aujourd'hui, force est de constater qu'à un moment donné, l'équipe qui a été bonne l'année dernière, elle retrouve à un moment donné ses marques.
La constance, ça a du bon.
À propos du public, il y avait un peu de monde vendredi à Valenciennes. C'est rare. C'est malheureux, ils ont un beau stade.
Très beau stade. Adapté en nombre de places vraiment à l'agglomération valenciennoise.
Voilà. Mais il y avait un peu de monde.
C'est un stade d'ailleurs que j'ai défendu pour qu'il accueille et ce sera le cas.
Vous étiez président du conseil général quand le stade a été construit.
Exactement. C'était que la décision avait été prise à l'époque où c'était Bernard de Rosier qui était président. D'accord. Il n'avait pas voulu mettre un peu d'argent d'ailleurs. Il était un peu pingre, Bernard.
Mais
c'était un bon gestionnaire. Ouais. Et donc on a aidé le stade différemment.
En
tout cas, moi je me suis battu pour que, dans le cadre de la Coupe du Monde 2019, j'avais travaillé avec Noël Le Graët à l'époque, en tant que ministre cette fois-là, le stade soit reconnu pour l'organisation des matchs Coupe du Monde 2019 féminine. Et ça, c'est important.
Bon, messieurs, on va parler de Lens. On l'a pas encore fait dans un instant. On l'a un peu évoqué, mais on va venir sur le. Le cas de Lens, Christian.
Oui, tout de suite.
Et toute l'équipe de l'Odyssée Foot aussi, juste après la pause.
France Bleu Matin.
Comment ça se passe dans la Bédoise? Comment ça se passe dans le Combrécy?
Je suis en vacances chez ma maman, qui écoute France Bleu Nord depuis des années.
Comment ça se passe également dans le Valence-Inouest?
Il y a un autre accident après, encore.
03 20 55 89 89, on fait la route ensemble.
France Bleu Matin.
C'est toute l'info de notre région, mais aussi d'ailleurs et de partout dans le monde. Dès 6h, un point précis sur vos conditions de circulation. La météo, on vous dit comment vous habiller avant de partir au travail ou à l'école. Et puis les jeux, la bonne humeur et les loisirs. France Bleu Matin, avec toute l'équipe, dès 6h sur France Bleu Nord.
On est vraiment bien chez toi.
C'est grâce à mon chauffage au bois.
Tu te chauffes au bois?
Oui, c'est un moyen économique et moderne pour se chauffer. Et avec les nouveaux appareils très performants, c'est aussi plus écologique.
Le chauffage au bois, énergie responsable. Plus d'informations sur www.lebois-energie.fr.
L'énergie, notre avenir, économisons-la.
Allez, 7h moins le quart, avant de revenir à l'indice foot et au sujet de Lens, bien sûr. Pierre avec nous à la MEL, métropole européenne de Lille, pour faire le point route. Bonsoir Pierre.
Oui, bonsoir à tous. Bon, ça c'est un petit peu comme depuis tout à l'heure. L'autoroute, hein, quoique restant assez chargée, roule, bon, on va dire relativement bien dans les deux sens. Hein. Là, on est toujours au niveau donc de Fachemin-Lec. Le périphérique S, lui, par contre, toujours bloqué, il sature bien dans la sortie, donc dans le sens Lille vers Paris, avec une montée au niveau de Rallye à peu près, et ce depuis la porte sud. Le périphérique sud, autoroute 27, quant à lui, elle est bien fine, ma foi, au niveau de la Pandora, il n'y a pas de difficulté. Quant à la voie rapide urbaine, malheureusement, elle est toujours bloquée dans le sens Tourcoing vers périphérique de Lille, elle est toujours la remontée au niveau de la zone de la Pilaterie. Voilà, puis on s'en trouve une, c'est comme tout à l'heure, ça roule même un peu mieux, je reste ensemble du centre-ville. Relativement fine, on va dire.
On arrive pratiquement voilà. À 19h. Merci beaucoup, en tout cas, Pierre, à demain. Bonne soirée.
On fait la route ensemble avec Move Équipement, fabricant dans notre région de galeries et pupitres porte-verts pour véhicules utilitaires. Produits et innovations sur moveéquipement.com. France Bleu Sport. Le lundi, c'est foot aussi. L'actu, les polémiques, les résultats, les indiscrétions.
En ce moment, on parle beaucoup de chiffres. Alors en voilà quelques-uns de plus. Un Français sur deux vit ou a déjà vécu dans un des 4,8 millions de logements HLM. 2,2 millions de locataires bénéficient d'une APL. Chaque année, 50% des logements attribués le sont à des ménages en dessous du seuil de pauvreté. 18 milliards d'investissements font travailler des centaines de milliers de salariés, notamment dans le bâtiment. Mais ce qui nous anime, ce ne sont pas les chiffres. C'est un vrai projet économique et social. C'est la solidarité nationale. Retrouvez ce projet sur union-habitat.org.
Un message de l'Union sociale pour l'habitat.
France Bleu Sport. Le lundi, c'est foot aussi. Jusqu'à 19h.
Allez, on va passer à Lens, Christian. Vous piaffez, vous attendez ça avec impatience.
Oui, Lens qui joue ce soir à 20h45 à Châteauroux. J'ai envie de dire que c'est aussi un match important. Bon, les gens vont dire, ils disent toujours un match important, tous les matchs sont importants. Mais il y a des charnières, il y a des moments où c'est plus... à Châteauroux... Il faut que Lens fasse un résultat, quoi. Et naturellement, on va pas parler de l'affaire Douchez. Avec Douchez ou sans Douchez, ce sera sans Douchez.
Jérémy Vachou, hein, qui a été titularisé.
Voilà, qui avait joué le début du championnat quand Casanova avait laissé sur le côté pour déjà des raisons similaires. C'est-à-dire, il faut rappeler que Alain Casanova reprochait déjà à l'époque à Nicolas Douchez de la délocalisation de son domicile. Il savait pas où il habitait. C'était pas à Lens, c'était à Paris, c'était le problème.
Ouais, l'avis de Monsieur Caner m'intéresse beaucoup, mais rappelons quand même qu'il y a plus de 25 ans, Gervais Martel avait recruté Antoine Redon, qui venait de Créteil, avec un meneur de jeu qui s'appelait Fatih Chebel. Ils étaient restés localisés à Créteil, c'est-à-dire que Antoine Redon, il reprenait sa belle Porsche après les entraînements, il repartait à Paris. Donc, je pense que ça existe depuis toujours. Ça pose le problème au moment de recruter des joueurs, il faut enquêter, il faut savoir quelle est leur mentalité, quelle est leur... Après, est-ce que vous pouvez exiger d'un gardien de 37 ans qui a fait la carrière qu'il a fait d'habiter à Vimy ou à Salomine? J'en suis pas certain, donc c'est un vrai problème.
Oui, mais c'est une question de conscience professionnelle. Quand vous êtes dans une période où Lens est vraiment en difficulté et doit...
18e.
Ouais, il doit recenser toutes les forces vives de son équipe. Il faut que tout le monde soit professionnel pour faire des belles prestations sportives, parce qu'on sait qu'on ne fait pas une prestation sportive. Ou alors, je l'apprends. Que, bon, c'est ce que je dis toujours. Je suis très étonné qu'on peut être bourré le mercredi et jouer un match le lendemain.
Oui, et puis au passage, frapper quelqu'un.
Oui, mais ça, c'est on nous a expliqué que c'était du doigt privé, ça ne regardait pas.
C'est vrai qu'il y avait des doutes.
L'exemplarité d'un joueur de foot aussi connu que Nicolas Duchesse est quand même, pour moi, un élément qui, certes, n'est pas sportif, mais qui doit ça correspondre.
Ça vous a choqué, vous?
Bien sûr. Bah, écoutez, surtout dans la période dans laquelle on vit. Oui. Aujourd'hui, par rapport à l'affaire Weinstein, etc. Oui. Donc on est devant quelqu'un qui n'a pas, pour moi, un comportement compatible avec l'image qu'il devrait donner, y compris aux jeunes générations. Donc après, je suis pas sélectionneur, je suis pas entraîneur, je suis pas le président du RC Lens, mais il y a quand même un problème.
Oui, Cédric.
Je pense que le terme image est parfait. J'ai envie de dire, ces garçons font ce qu'ils veulent. Après tout, ils font ce qu'ils veulent. Quand El Hadji Diouf, qui a fait les beaux jours de Lens, repartait entre deux au Sénégal, aller faire des fêtes dans les discothèques lilloises, arajoises, etc. Tant que ça se savait pas qu'il était bon sur le terrain, après tout, ça regardait que lui.
Mais ça relève pas de la correctionnelle.
Voilà. Mais là, on parle de fait.
Il risque de la prison ferme, notre ami.
Il va être jugé en février. Hein.
L'avis d'un agent de joueur, Cédric Van Gotter.
Alors, un avis de droit, pour rebondir aussi sur ce que disait Benoît, il y a une convention collective des métiers du football qui protège les footballeurs contre les employeurs, mais qui leur donne des devoirs aussi. Notamment le devoir d'habiter dans un rayon de 50 km du club. Donc il n'y a pas de « je vis à Paris, je vis parce que je n'ai pas envie de vivre à Lens ». Il doit vivre dans 50 km autour de Lens.
Il a un logement à Arras. En coloc d'ailleurs avec Clément Chantôme, ça explique un peu cela.
Avec qui il était à Paris
lors de cette fameuse soirée. Mais c'est une adresse postale, mon cher Cédric. Ça n'est rien de plus.
C'est au club d'être clair en ce cas-là aussi. Sait que c'est juste une adresse postale, il faut être professionnel et respecter ton taille.
Moi, je vais laisser au club. Comment je pourrais dire? Je vais leur donner un blanc-seing. Ils ont une nouvelle direction habituée à, et notamment
Monsieur Pouille
et Monsieur Volnidiac. Ils sont habitués à gérer les crises. Donc moi, je leur fais confiance. On verra plus tard. Donc on va leur donner un blanc-seing pour l'instant. On verra plus tard. On en reparlera plus tard. De cette gestion du Racing Club de Lens qui me paraît tout à fait ahurissante en ce moment.
On est quand même face à quelqu'un qui a été mis en garde à vue, il en est sorti, qui va faire l'objet d'un jugement en correctionnel, qui risque de prendre de la prison ferme.
Elle n'a pas porté plainte, Adam, hein.
Oui, d'accord. Mais laissons perdurer et prospérer la démarche judiciaire. C'est pas qu'un problème de délocalisation. On est face à quelqu'un qui a commis un acte potentiellement répréhensible. Après, je ne suis moi non plus pas juge, mais moi je souhaite beaucoup de courage à Jérémy Vachou parce que je
pense qu'il... il n'est pas prêt de rejouer.
Ah, moi je serai dirigeant du club, je ne le fais pas rejouer. Je le dis très clairement.
D'accord. D'accord, ben voilà, ça c'est dit.
18h52, messieurs, on va passer au dossier de la semaine.
Non, on n'a pas fini là.
Parce qu'on
a pris un peu de retard. Donc, revenons au foot. Vous êtes d'accord avec moi que Lens est quand même toujours 18ème, hein, face à Châteauroux qui est un produit.
13ème.
Qui marche bien, mais ils sont 13e, ils doivent être capables d'inverser la tendance ce soir.
Mais ce sera pas si simple que ça, Christian. C'est pas parce que c'est un promu et que Lens va un peu mieux. Non, à la limite, moi j'ai beaucoup plus peur de ce match-là, le match de ce soir, que le match du week-end prochain où ils reçoivent Nancy, qui sera aussi important.
Ils vont à Nancy, qui sera aussi
important, puisque c'est une équipe qui est grosso modo plus dans les mêmes eaux que Lens que Châteauroux.
Christian, la peur n'évite pas le danger, mais à un moment donné, il faut qu'ils capitalisent des points pour se retrouver dans la... Parce qu'ils termineront le championnat entre la 8e et la 14e place.
Vous êtes généreux.
Je doute qu'ils aient une remontée spectaculaire, mais il faut vite qu'ils se mettent à l'abri, parce qu'à un moment donné, vous savez, la catastrophe de 2007-2008, ils l'ont jamais vu venir. Ils ont même fait la finale au Stade de France contre le PSG, croyant encore, l'année de la banderole, croyant encore que... J'entends encore Eric Carrière nous dire, mais ça va aller, sauf que ça n'a pas été. Et il y a eu un accident industriel de 40 millions d'euros. Donc il faut vite capitaliser, revenir dans des eaux moins troubles, et puis après la saison sera pourrie, de toute façon, ça on le sait. Et là se posera la question, que fera l'actionnaire du Racing Club de Lens? Et ça, ce sera un autre débat.
Bon, on aura la réponse ce soir, c'est à suivre en direct sur France Bleu Nord.
Peut-on passer au dossier de la semaine?
À partir de 20h45 avec Bastien Ducrot. 20h45, on passe au
Merci
dossier de
Christian.
La semaine.
France Bleu Sport, le lundi, c'est foot aussi, jusqu'à 19h.
On arrive donc au dossier de la semaine avec vous, monsieur le sénateur. Quelle est la place du football professionnel dans la vie économique de la région?
Alors, j'ai envie de vous dire que, de par votre situation précédente, où vous êtes chez ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, c'est-à-dire vos trois fonctions touchées forcément au football.
Bien sûr, parce que le foot, c'est le sport le plus pratiqué dans les quartiers prioritaires de la ville. Je vous rappelle les quelques chiffres qu'il faut jamais oublier. Le foot en France, c'est 2 100 000 licenciés, dont malheureusement que 160 000 femmes, mais on espère que ça va progresser. C'est un chiffre d'affaires considérable dans le budget global du sport en France, qui représente près de 2% du produit intérieur brut. Puis moi, mes fonctions de ministre m'ont amené à gérer l'Euro 2016. Oui. J'ai quand même, c'est un moment d'honneur et de bonheur pour moi, avec une retombée économique en France, globalement, de plus d'un milliard d'euros, de chiffre d'affaires supplémentaire par rapport à une période habituelle. Donc c'est un plus. C'est des postes, quand on va dans les matchs, on voit les hôtesses, on voit tout ce qui touche à l'hospitalité, qui est un élément majeur. Donc, pour moi, c'est ce que j'appelle du soft power. C'est-à-dire, c'est du pouvoir doux, mais qui est important. Une ville qui a une grande équipe de foot. Et c'est vrai que pour l'instant, Lille, oui, Lens et Valenciennes, c'est pas terrible. Oui. Mais une ville qui a une grande équipe de foot, c'est une ville qui dégage un rayonnement, une énergie très importante et qui est reconnue au plan international.
Frédéric, c'est aussi une part d'aménagement du territoire. Parce que quand on construit des outils pour les clubs, il y a aussi les transports qui vont autour. Il y a des commerces qui s'installent autour des stades et c'est une vraie économie
circulaire. Mais Frédéric, est-ce que vous savez, c'est tout à fait, est-ce que vous savez que les nouveaux stades ont coûté près de 2 milliards d'euros? Oui. Globalement, pour l'Euro 2016, avec 200 millions d'euros de subventions de l'État. Mais le bâtiment m'a toujours dit, les gens du bâtiment m'ont dit, mais heureusement que pendant cette période de vache maigre, on a eu la construction ou la reconstruction, la rénovation des stades. Ça nous a permis de garder de l'emploi. Ça a été 20 000 emplois préservés dans le bâtiment grâce à la construction des stades pour
l'Euro. Donc indispensable dans la vie de la cité.
Alors, je dis pas que c'est l'alpha et l'oméga. La culture à sa place, l'économie naturellement à sa place, le social à sa place, mais le sport, c'est la plus grande activité humaine. On a 17 millions de licenciés dans notre pays, 17 millions de pratiquants non licenciés, il n'y a pas d'autre activité plus importante que le sport, et le foot en particulier, dans notre pays.
Benoît.
Oui, moi j'ai une petite question pour rebondir là-dessus. J'ai envie de dire quand même que tout ça, ce sont des cadeaux somptueux qu'on fait aux clubs professionnels, à des entreprises privées. La rénovation du stade Bollard, elle bénéficie au Racing Club de Lens. Le stade Pierre-Mauroy, il bénéficie à une entreprise privée qui est le LOSC. Jusqu'à quel point c'est raisonnable? Est-ce que le milieu professionnel vous le rend à juste titre, en s'investissant pour la cité, pour les jeunes? Enfin, tout ça parfois quand même fleure
Moi j'ai des exemples. Très honnêtement, au niveau des stades, je préfère l'exemple de Lyon. Le Stade des Lumières, pour moi, c'est le bon exemple. C'est-à-dire, c'est le club qui est propriétaire de son stade.
Voilà.
J'aimerais qu'on aboutisse à ça à terme dans notre pays. Mais c'est un exemple, mais qui manifestement est aujourd'hui réussi. Mais vous avez aussi des clubs, le PSG, dont on parle beaucoup en termes de richesse, mais qui a une fondation qui fait un boulot formidable dans les quartiers. Voilà. Donc il y a aussi un retour sur investissement. Après que les dirigeants de clubs ne soient pas des philanthropes, bah oui, je vais pas vous dire le contraire. Ils font
du business.
Ils font du business. Mais si c'est du business qui donne de l'espoir, qui donne de l'énergie, qui crée des emplois, moi je crache pas dans la soupe. Vous savez, j'ai été un peu mis en cause par une grande chaîne de télévision publique il y a quelques jours sur la défiscalisation des grands événements sportifs. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut qu'il y ait les grands événements sportifs dans notre pays, si on veut les JO en 2024, si on veut la Coupe du Monde 2019 de foot féminin, eh ben oui, on fait des efforts. Il y a une concurrence. Il y a une concurrence nationale et internationale. Il faut l'accepter. Ou bien on considère que la France n'est plus un pays qui reçoit ce type d'événements et de grands clubs par là même. Parce que s'il n'y a pas les grands événements sportifs, il n'y a pas non plus les grands clubs.
Patrick Kader, je sais que vous n'aurez pas beaucoup de temps pour répondre à cette question. Dans le Nord-Pas-de-Calais, que ce soit Lens, que ce soit Valenciennes, que ce soit Lille,
Dunkerque-Boulogne, il ne faut pas les oublier.
Oui, mais là, les trois exemples que je viens de vous citer, ils ont trois nouveaux stades, des beaux stades. Enfin, un stade rénové à Lens. Et ils ont trois centres d'entraînement magnifiques, que ce soit Valenciennes, Lens ou Lille. Et pourquoi, pourquoi avec tout ça, nos trois équipes sont dans le trou, tous? C'est un hasard ou quoi? Ou c'est...
On est, voilà, c'est la mauvaise passe la mauvaise pendant passe. Ce début de saison. Mais regardez Lens, l'année dernière, tout le monde espérait l'arrivée en Ligue 1. Lille avait fait une deuxième partie de saison magnifique. Bah, je croise les doigts pour que nos trois équipes fassent une très belle fin, milieu et fin de saison 2017-2018.
Vous y croyez encore? Vous y croyez?
Bien sûr. D'accord. Je fais de la politique,
vous êtes
donc
optimiste.
J'y crois.
Le palcapif, on va y arriver. Christian, reste même pas une minute quand même. Oui. Hein. Ça vaut ce que ça vaut. Hein. C'est des pronostics aussi.
Moi, j'ai dit que Lens devait gagner.
Vous êtes pour le pronostic, vous êtes vous misez?
Je mise, oui.
Le match de ce soir.
2-1 pour Lens.
D'accord. Moi, allez, 1-0 pour Lens.
Non, moi, je peux pas. La loi était.
Et voilà comment le faire.
Et Benoît.
Bah, écoutez, si les Lensois prennent ne serait-ce que 2 points sur les 2 prochains matchs, ce serait bien. Et 4, ce serait mieux.
Non, c'est alors, vrai. Comme j'ai pas pu parier, je prends une question joker. Comment on peut tirer
Il y a pas de question
dans la région.
Il y a tant de secondes.
En 10 secondes.
Comment la région peut tirer profit des JO de Paris comme elle l'a fait pour Londres?
10 secondes.
C'est un vrai sujet. Je vais commencer à y bosser comme sénateur. Il faut que toute la région se mobilise autour des JO 2024, en base arrière, base avant, peu importe, mais comme étant incontournable dans cette grande opération de sport.
Merci
question,
Patrick
Canner.
Merci messieurs, rendez-vous lundi prochain évidemment. Nouveau numéro de l'Indice et Foot aussi à partir de 18h. Il est 19h. L'heure de France Bleu Soir, Fabien Fourel, Arnold Derek, c'est à vous messieurs, bonsoir.
Très bon début de semaine avec nous dans France Bleu Soir. On vous a gâté hein, ce soir, puisque ce sont carrément trois invités que vous retrouverez autour du film Jalouse. Karine Viard et les réalisateurs David et Stéphane Funkinos. Avant cela, place au journal de la rédaction. Bonsoir Fabien Fourel.
Bonsoir Arnold et bonsoir à tous.
Les réquisitions au procès du frère de Mohamed Merah.
C'est la fin d'un procès très médiatique qui a duré 4 semaines. L'avocate générale vient de réclamer la réclusion au criminel à perpétuité.
Le portail APB va fermer définitivement ses portes dans quelques mois.
Décision du gouvernement, fini ce logiciel qui décide de l'avenir des étudiants, parfois à la loterie. On entendra la réaction des étudiants et celle de Gilles Roussel, le patron des présidents d'université.
À quelques heures de la Toussaint, on vous parlera aussi du juteux marché des pompes funèbres.
Le prix des obsèques varie carrément du simple au triple en fonction des sociétés, Mélodie Pépin.
Des pratiques commerciales abusives pointées du doigt par l'association.